Bienvenue dans la partie 3 des montagnes se souviennent. Je suis Christophe Caporilli pour Odyssée 2.0. Dans notre histoire jusqu'à présent, nous avons été témoins de la tentative désespérée de McKeon de prêter serment. Arrivant 6 jours trop tard, un retard qui servirait d'arrêt de mort pour son clan. Nous avons vu comment John Dalrymple, le maître de Ster, a saisi cette opportunité pour faire un exemple des McDonald's. Aujourd'hui, nous entrons dans Glencoe même, à la veille du 12 février 1692. Pendant 12 jours, des soldats du gouvernement avaient mangé aux tables des McDonald's, joué avec les enfants McDonald's et dormi sous les toits des McDonald's. Le code sacré de l'hospitalité des Highlands était sur le point d'être transformé en arme. Cet épisode nous emmène au cœur des ténèbres. La nuit où les ordres ont été lus, les décisions prises, et un matin hivernal ensanglanté par la plus odieuse des trahisons. Certains moments de l'histoire nous forcent à confronter le pire de la nature humaine. Celui-ci en fait partie. Le soir du 12 février porte ses propres présages. Le vent change, apportant ce lourd silence qui précède la neige des Highlands. Les soldats, en particulier ceux venant des Highlands, sont assis en cercle autour des feux. Certains prient à voix basse, d'autres boivent plus que leur part pour atténuer le dégoût qui les habite. Aucun ne peut dormir. Dans l'obscurité grandissante, un soldat se tient près d'une ancienne borne de pierre. Sa conscience pèse plus lourd que son mousquet, tandis qu'il murmure en gaélique à un McDonald qui passe. « Oh, grande pierre là-bas dans la vallée, bien que grand soit ton droit d'être ici, si tu savais ce qui doit se passer cette nuit, tu ne resterais pas ici. » Pas un mot n'est échangé entre eux. Aucun n'était nécessaire. Le message, enveloppé dans une énigme et adressé à la pierre, avait trouvé sa véritable cible. Avant que la nuit ne tombe complètement, le McDonald et les siens s'évanouiraient, sauvés par des mots prononcés à la pierre, mais destinés à la chair. Dans une maison noire, où la fumée de tourbe flotte en couche sous la chaume, John McDonald, 12 ans, regarde son père partager un verre avec le capitaine Robert Campbell. La lueur du feu attrape le visage du capitaine tandis qu'il lève sa coupe. Est-ce un tremblement dans sa main? Est-ce la culpabilité qui assombrit ses yeux? Pendant plus de 12 jours, il a mangé leur pain, bu leur whisky, partagé leurs histoires. Ces hommes sont dispersés dans le Glen, dormant sous les toits des McDonald's, jouant avec les enfants de McDonald's. Dans sa poche, des ordres d'Édimbourg transformant cette hospitalité en armes. La nuit tombée, dans le quartier des officiers, le capitaine Campbell ouvre ses ordres une dernière fois. Le papier craque dans le silence, le seul son outre le crépitement des bûches de tourbe dans l'âtre. Les mots sont clairs, écrits de la main élégante de Dalrymple. Passez tous au fil de l'épée, ceux de moins de 70 ans. L'opportunisme politique déguisé en loi et ordre. Le nouveau roi William doit montrer aux Highlands qui est le maître maintenant. Glenlyon regarde de nouveau les ordres. Il y voit plus que de simples instructions pour un meurtre. Il y voit une chance de retrouver sa place dans un monde qui laisse rapidement derrière les hommes brisés comme lui. L'État britannique, moderne, lui offre un marché cruel, son honneur contre le salut de sa famille. Le nouveau pouvoir à Londres exige une loyauté absolue, et c'est maintenant le moment de la prouver. Mais le capitaine sait que les ordres sont injustes, contre nature, immoraux. Même sa propre nièce est mariée à un membre des McDonald's de Glencoe. Ces soldats font leurs préparatifs avec une précision mécanique, enveloppant les platines de leurs mousquets pour les garder au sec, vérifiant leur poudre, assurant leurs lames. La neige tombe doucement. Elle tombe blanche. Elle recouvre tout. Dans les maisons de pierre, les McDonald's dorment profondément. Ils font confiance aux anciennes lois. Ils font confiance à l'hospitalité. Ils font confiance à l'humanité. Ils ont donné du pain aux soldats du roi. Ils ont donné de la chaleur. Les soldats ont mangé à leur table pendant 2 semaines. C'est ainsi dans les Highlands. La vallée de Glencoe est un piège. Tout le monde le sait. Les McDonald's le savent, les Campbell le savent. Une route pour entrer, une route pour sortir. Les 400 hommes du lieutenant-colonel Hamilton bloqueront ces routes quand le moment viendra. La neige continue de tomber de plus en plus fort. Certains soldats ne peuvent supporter la trahison. Les lieutenants Farquhar et Kennedy brisent leur épée. D'autres préviennent leurs hôtes. La plupart restent silencieux. Les ordres sont les ordres. Le vent couvre les sons. Les hommes du capitaine Campbell se lèvent dans l'obscurité. Ils connaissent les noms des enfants qu'ils vont tuer. Ils ont joué avec ces enfants. Et encore une fois, les ordres sont les ordres. 5h du matin. L'obscurité d'avant l'aube est maintenant absolue. La neige tombe plus fort maintenant, étouffant tout son. Le premier signal arrive. Un claquement sec de mousquet qui résonne contre les parois des montagnes. À Inverigan, 8 hommes sont tirés de leur lit, conduits jusqu'à leur propre tas de fumier. Ils se tiennent dans la neige, certains encore pieds nus. Le peloton d'exécution s'arrange avec la précision d'une parade militaire. Ce sont des vétérans des Flandres. Ils ont appris à tuer. Mousquet anglais, plomb espagnol, poudre hollandaise, acier allemand. Le nouveau monde surmonte le sien avec une efficacité mécanique. Chaque tir résonne contre les montagnes. Les soldats tombent sur le dernier McDonald's de Inverigan, un jeune homme d'à peine 20 ans. L'un des soldats, les doigts engourdis par le froid mordant des Highlands, fouille dans la poche du jeune McDonald. Puis, une découverte. Un parchemin usé au bord mais portant l'indéniable sceau de l'autorité. Les yeux du soldat s'écarquillent tandis qu'il déplie le document, révélant l'élégante écriture du colonel Hill, promettant refuge et protection au clan McDonald de Glencoe. Le capitaine Robert Campbell de Glenlyon reste figé, son souffle visible dans l'air glacial. L'épée dans sa main lui semble soudain plus lourde que les montagnes qui les entourent. Il se positionne comme un bouclier vivant entre ses hommes et cette dernière victime. Ce pauvre garçon dont le clan a partagé le pain avec les hommes de Campbell seulement quelques heures auparavant. Dans ce moment d'hésitation, cet interlude fragile où la conscience affronte le devoir, le capitaine Drummond émerge des rangs. Ses yeux brillent de la froide détermination d'un prédateur tandis qu'il s'avance. Pourquoi respire-t-il encore ? La voix de Drummond tranche le silence comme une lame. Qu'en est-il de nos ordres ? Tuez-le ! Les soldats demeurent comme des statues, figés non par l'hiver des Highlands, mais par la conscience de leur propre humanité. Leurs armes pendent à leur côté, soudain étrangères et obscènes dans leurs mains. La patience de Drummond vole en éclats. Avec une précision fluide, il dégaine son pistolet et le pointe sur la tombe du jeune McDonald. Dans sa maison, MacIan, le chef du clan, le vieux renard, entend le tumulte. Son serviteur fait irruption. Les soldats tuent tout le monde. Les soldats tuent tout le monde. Et même alors que la mort approche de sa porte, il maintient le code des Highlands. Apportez du whisky pour nos invités, ordonne-t-il. Il offre du whisky aux hommes qui sont venus le tuer. L'hospitalité est plus forte que la peur dans les Highlands. Du moins, l'était. Sa femme meurt dans la neige dépouillée par des hommes qui avaient mangé à sa table. L'horreur se déroule avec une précision militaire. Dans une maison, une fillette de 9 ans s'enfuit des flammes, seulement pour être rattrapée et poignardée. Le lieutenant Lindsay écrira plus tard dans son journal que ses cris le hanteront jusqu'à sa propre mort dans les Flandres. une femme enceinte fuit dans la tempête, parcourant quelques kilomètres avant que le froid ne l'emporte. On la retrouvera au printemps, quand la neige fondra. Certains soldats, leur humanité perçant à travers leur discipline, tirent délibérément trop haut ou laissent leur cible s'enfuir. Les lieutenants Farquhar et Kennedy, qui ont brisé leurs épées plutôt que leur honneur, choisissent le suicide professionnel plutôt que le meurtre. Mais d'autres exécutent leurs ordres avec une efficacité glaçante. Le capitaine Drummond, regardant un garçon s'accrocher aux jambes de Robert Campbell Glenlyon en suppliant pour sa vie, donne l'ordre de tirer avec le même ton qu'il utiliserait pour commander son petit déjeuner. Le massacre se répand dans la ville comme une tache. 38 personnes meurent par la balle et la lame. La véritable horreur est encore à venir. Les soldats mettent le feu aux maisons, forçant femmes et enfants à affronter une tempête de neige déchaînée. La fumée porte plus que la simple odeur du chaume qui brûle. Elle porte l'odeur d'un monde qui change. Quelques McDonald's parviennent à s'échapper dans les montagnes, suivant d'anciens sentiers connus seulement du clan. Ils se retournent pour voir leur monde brûler, les flammes se reflétant sur la neige fraîche, la fumée s'élevant noire contre l'aube hivernale. Cette vision se grave dans leur mémoire, pour être transmise de génération en génération. Alors que l'aube se lève pleinement, la neige continue de tomber, couvrant le sang, couvrant les corps, couvrant les empreintes des meurtriers comme des victimes. Mais certaines choses ne peuvent être couvertes. Les montagnes se souviennent. Elles restent témoins de cette trahison. La lumière matinale révèle l'étendue du carnage. Des groupes épars de soldats rôdent tels des loups d'hiver, leurs yeux perçants guettant le moindre mouvement parmi les vestiges calcinés. Près d'Imbergen, un lieutenant guide ses hommes à travers les ruines fumantes, chaque pas laissant des empreintes cramoisies sur la neige immaculée. Un son, faible mais indéniable, perce le silence mortel, attirant leurs têtes comme des prédateurs détectant une proie blessée. Leur attention se fixe sur une humble demeure, défiant ses voisines en ruine. Le regard du lieutenant se rétrécit, tandis qu'il se tourne vers le plus jeune de ses hommes. « Toi là !» ordonne-t-il, sa voix tranchante comme un dirk dégainé dans le silence. « Entre dans cette maison et termine ce que nous avons commencé !» Le jeune soldat, ayant à peine vu 20 étés, sent son âme trembler dans la cage de ses côtes. Pourtant, il hoche la tête, ses doigts blanchissant tandis que sa prise se resserre sur son arme, chaque pas vers la demeure plus lourd que le précédent. La porte cède à son toucher, gémissant comme une bête blessée, alors qu'elle révèle l'obscurité intérieure. Ses yeux, s'ajustant à la pénombre comme un prédateur pénétrant une caverne, découvre les formes blotties contre le mur du fond, une femme serrant un enfant contre sa poitrine. À ses pieds gît un petit chien, ses yeux loyaux reflétant la silhouette du soldat encadré dans l'embrasure, comme la mort personnifiée. Le soldat murmure « J'ai été envoyé pour vous tuer ». Les yeux de la femme rencontrent les siens, non avec la haine qui l'attend, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la reconnaissance d'une humanité partagée. « Je vous en prie, » murmure-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Épargnez mon enfant. Pensez à vous. Vous n'étiez qu'un garçon comme lui un jour. » Le temps se suspend en cet instant. tendu comme une corde d'arc entre deux battements de cœur. Dans son esprit, le soldat ne voit pas des ennemis, mais des reflets, l'enfant qu'il était, la mère qu'il a portée, les innombrables avenirs possibles qui ne tiennent qu'au fil de sa prochaine action. D'un mouvement fluide né de l'entraînement, mais guidé par quelque chose de plus ancien que le devoir, il plonge sa lame non dans la chair de la femme ou de l'enfant, mais dans le fidèle molosse à leurs pieds. Le jappement de la créature, bref et surpris, résonne comme le tonnerre dans le silence de la maison. « Restez silencieux, » ordonne-t-il, sa voix à peine un murmure. « Restez cachés jusqu'à que la tempête passe. » Émergeant dans la dure lumière du jour, plissant les yeux face au soleil, il présente sa lame ensanglantée au lieutenant qui l'attend. La preuve rouge tache l'acier, un acte partiellement accompli, mais totalement falsifié. Une rébellion silencieuse enveloppée dans l'apparence de l'obéissance. « La tâche est accomplie, » déclare-t-il. Et dans sa voix résonne la certitude d'un homme qui, dans le creuset de sa conscience, a choisi de suivre son humanité plutôt que l'obéissance. Les soldats partent, leur devoir accompli, laissant derrière eux une vallée de morts et de mourants. Capitaine Campbell écrira dans son rapport que l'opération a été exécutée conformément aux ordres. À Londres, Dalrymple lira ce rapport avec satisfaction. Ni Hamilton ni Duncanson n'étaient présents lorsque le massacre a commencé. Un détail qui en dit long sur la façon dont le pouvoir se distancie de sa propre violence. Les hommes qui ont planifié le carnage se sont assurés qu'ils n'auraient jamais à regarder dans les yeux ceux qu'ils avaient condamnés, laissant tout le sale travail à Robert Campbell de Glenlyon, l'homme parfait pour porter le chapeau. Cette absence calculée révèle l'un des schémas les plus intéressants de l'histoire. Comment ceux qui détiennent le plus grand pouvoir s'assurent de maintenir la plus grande distance entre eux-mêmes et la violence qu'ils autorisent. C'est un jeu d'échecs où les rois restent protégés, tandis que les pions sont sacrifiés sans hésitation. Mais l'histoire de Glencoe ne s'arrête pas là. Le massacre devient un symbole de tout ce que les Highlands perdront dans les années à venir. Leurs anciennes coutumes, leur système de clans, leur confiance en des traditions plus anciennes que la mémoire. La beauté de la vallée porte maintenant le poids du souvenir. Chaque pierre un témoin. Chaque chute de neige, un écho de ce terrible matin de février où l'hospitalité est morte dans les Highlands. Alors que l'aube se levait sur Glencoe, la neige continuait de tomber, couvrant le sang, mais pas la mémoire de ce qui s'était passé ici. Quelle est la signification lorsque des hommes suivent des ordres qui violent nos codes humains les plus fondamentaux? Rejoignez-moi la semaine prochaine pour explorer les conséquences et comment cette atrocité des Highlands est devenue un scandale international. C'était Christophe Caporilli pour Odyssée 2.0 et je serais intéressé d'entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine.